Je suis intéressé à eux parce que ce sont des gens qui n'ont pas de déficience mentale. Ce ne sont pas des débiles mentaux, ce ne sont pas des idiots. Mais ils sont au degré zéro de la pensée, dit le procureur Martin. Qu'ils ne soient pas des débiles mentaux, ça veut dire qu'ils sont responsables de leurs actes. Et ils ne sont pas inintelligents. Ils sont au degré zéro de la pensée. Qu'est-ce que c'est que le degré, qu'est-ce que c'est que la pensée? Qu'est-ce que c'est que le degré non zéro de la pensée? Qu'est-ce que c'est que d'avoir un peu de pensée? C'est pas simplement d'être intelligent, c'est d'avoir les moyens de penser. Les moyens qui sont apportés par la société, par la filia, justement, par des relations sociales normales, etc. Moi, je pose que ce degré zéro de la pensée, il est produit par ce que j'appelle la télécratie. Nous vivons dans une société aujourd'hui qui est dominée massivement par des relations sociales qui sont canalisées désormais par les grands médias et en particulier par la télévision au service d'une captation de la libido pour attirer la libido sur les objets de la consommation par tous les moyens. Cette captation de la libido, elle a été organisée de manière industrielle et rationnelle, donc par le calcul, y compris l'audimat et toutes ces choses-là. Or la libido, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour, c'est-à-dire l'objet du désir. Et tout à l'heure, je vous disais que le désir, c'est un objet incalculable. Si donc vous soumettez la libido pour lui imposer des objets en la soumettant à la calculabilité, vous détruisez les objets de la libido. Donc vous détruisez la libido elle-même. En fait, le XXe siècle a été caractérisé par le fait que l'industrie, la grande industrie qui domine le XXe siècle, c'est l'industrie culturelle. Parce que c'est elle qui constitue les marchés, qui permet d'écouler les biens. Donc c'est en contrôlant le marché, vous contrôlez l'industrie aujourd'hui. Et ça se fait par les industries culturelles. Or, cette industrie culturelle, elle a fait la même chose que l'industrie du pétrole. Elle épuise les ressources libidinale de l'humanité. Et c'est extrêmement grave, parce que quand la libido est détruite, sous la libido, il reste quelque chose. Et ces choses s'appellent les pulsions. Ces pulsions, ce sont les pulsions de vie, les pulsions de mort. Les pulsions de vie sont les pulsions sexuelles, par exemple. Alors vous avez des viols de plus en plus facilement qui se produisent aujourd'hui, sans état d'âme. Et puis les pulsions de mort, c'est la pulsion de tuer, de se tuer soi-même, le suicide, de se détruire en scamant, en s'alcoolisant, de détruire les autres, de persécuter ses proches aussi, ça arrive. Tout ça, ce sont des expressions de la pulsion de mort. Aujourd'hui, nous vivons dans une société pulsionnelle. Et c'est ça que j'appelle le populisme industriel.
Et c'est pour ça qu'il est dangereux pour vous?
Il est extrêmement dangereux parce que il est très dangereux parce qu'il se combine à un populisme politique. Alors, qu'est-ce que c'est que le populisme politique? Ce qu'on appelle le populisme, hein, ça remonte à la première moitié du XXe siècle, la description des mouvements populistes. Pour moi, ce qui est populiste, et je crois que c'est reconnu comme tel par les historiens et les politologues, le populisme politique, c'est ce qui fait appel aux masses en tant que les masses ont des pulsions en tant que masse. Des comportements mimétiques, on sait bien que les comportements des foules, par exemple, sont très différents des comportements des individus. Un homme seul qui peut être très très bien peut, dans une foule, se retrouver à se comporter comme un barbare. C'est ce qui s'appelle, ça arrive à l'armée, dans les conflits, vous savez bien, dans les guerres, on voit des choses comme ça. Si vous regardez les films de John Ford, c'est une scène qu'on retrouve régulièrement dans les westerns de John Ford, à un moment donné, la foule se ligue et va commettre un assassinat.
Ou elle va essayer de lyncher quelqu'un.
Lyncher quelqu'un, etc. Ça, ce sont des processus qui montrent que les foules développent des désinhibitions des pulsions. Le populisme politique, c'est ce qui tend à canaliser, non pas le désir des gens, mais les pulsions des gens en tant qu'ils constituent des masses. Alors ça, c'est un grand classique, le totalitarisme, le fascisme, le nazisme ont exploité tout cela. Et d'autres formes qui ne sont pas fascistes, qui ne sont pas totalitaires, mais qui sont populistes. Bon, on en a connu en Amérique latine, etc. Le populisme industriel, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'instant, c'est une organisation industrielle de la captation de la pulsion lorsque la libido n'existe plus. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui sur certaines chaînes de télévision, où on ne cherche plus du tout à attraper le désir des gens parce qu'ils n'en ont pratiquement plus. Et pour continuer à attirer leur attention, on fait appel, bon, au sexe, au meurtre, etc. On canalise ce qu'il y a en eux d'automatique dans la pulsion. Parce que les pulsions attirent l'œil. Si je vous présente des photos pornographiques, ça va vous retenir. Il y a une espèce de captation mécanique qui est d'une efficacité énorme. Là où le désir est quelque chose qui doit être cultivé, élevé, longtemps éduqué, etc., la pulsion, elle marche immédiatement. Elle est aussi efficace que si vous vous approchez d'un fauve, il va rugir sur vous automatiquement. Et nous portons tous en nous ce champ pulsionnel-là. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème, en France comme ailleurs d'ailleurs, hein, mais en France nous en faisons l'expérience peut-être plus qu'ailleurs en ce moment parce que nous sommes en campagne électorale et dans une situation d'échéance et de décision électorale. Nous sommes confrontés à ce que j'appelle la politique pulsionnelle. C'est-à-dire une politique qui tend à utiliser les mécanismes pulsionnels développés par le populisme industriel, en particulier à la télévision, pour essayer de prendre le contrôle du pouvoir. Et ça, évidemment, c'est ce qui a été engendré par ce que j'appelle la télécratie, c'est-à-dire le pouvoir de la télévision qui s'est imposé et qui a court-circuité, à mon avis, les mécanismes démocratiques.
Alors Bernard Stiegler, on vient vraiment de vous écouter, c'est le philosophe qu'on vient d'entendre, hein, vraiment. En 2003, vous étiez directeur de l'IRCAM à l'époque et on vous a demandé comment devient-on philosophe? Et votre réponse a sidéré la communauté philosophique. En effet, vous avez déclaré, ben moi je suis devenu philosophe en prison. Et là on a appris, et c'est ça qui a sidéré tout le monde, c'est que vous aviez passé 5 ans en prison pour attaque à main armée, pour des braquages, hein, vous avez braqué des banques. Pourquoi avez-vous fait cet aveu? Très peu de gens le savaient, vos proches uniquement, ça avait été en plus retiré de votre casier judiciaire. Vous auriez pu ne jamais en parler et personne n'aurait jamais été au courant. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin à ce moment-là, pour répondre à cette question-là, comment devient-on philosophe, de dire ça?
Alors d'abord, vous savez, moi je crois beaucoup aux accidents. Tout ce qui m'est arrivé dans la vie m'est arrivé par accident. Les propositions de poste dont je parlais tout à l'heure sont des propositions accidentelles. J'ai jamais voulu avoir une carrière de ce genre. Un jour, une personne avec qui je travaille maintenant, d'ailleurs Marianne Alphand, qui organisait au Centre Pompidou précisément, donc un cycle de conférences avec des philosophes, surtout français, mais il y avait aussi des étrangers, à qui elle demandait d'expliquer pourquoi et comment on devient philosophe et comment est-ce qu'on reste aussi, si on y arrive à le rester, m'a téléphoné en me disant, voilà, j'aimerais beaucoup proposer. Bon, j'ai été flatté parce qu'il y avait des gens que j'admirais beaucoup dans le cycle de ces conférences. Et je lui ai dit, oui, rencontrons-nous. Puis après, je me suis dit, mais si on me demande comment je suis devenu philosophe, il va bien falloir que je dise la vérité. J'ai été un peu embarrassé, j'ai vu Marianne Alphand, j'ai déjeuné avec elle et je lui ai dit, écoutez, voilà, je suis devenu philosophe en prison et il faut que vous le sachiez. Mais je lui ai aussi dit que j'avais décidé de répondre positivement à sa proposition, donc de dire ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? D'abord parce que j'aime bien faire des expériences, peut-être. Deuxièmement, c'est pas facile de vivre en portant un secret. C'est même très très difficile et je pense que c'est très dangereux pour la santé mentale. Et troisièmement, parce que ce secret, d'abord, je le partageais avec un certain nombre de personnes à qui je l'imposais, notamment ma famille, mes
Vous
enfants.
leur imposiez de garder le secret.
Bah, je leur imposais rien, mais ils le faisaient d'eux-mêmes, mais c'était un secret pour eux, en particulier mes deux enfants, mes deux grands-enfants. Entre-temps, j'avais eu un autre enfant, et d'ailleurs, depuis, j'en ai encore eu un autre, donc j'ai deux petits-enfants. Et je me demandais, depuis que, en particulier, ma fille Elsa est née, c'est-à-dire il y a maintenant presque 8 ans, je me demandais comment j'allais faire pour lui dire d'où je venais, par où j'étais passé, parce que c'est pas simple. La prison, c'est un lieu quand même infernal pour les gens. Et c'est le lieu du mal.
Pour ceux qui n'y sont pas allés, vous voulez dire.
Pour ceux
Mais
qui n'y
il est
sont pas
infernal
allés.
aussi pour ceux qui y sont allés, comme
Malheureusement,
vous l'avez décrit depuis dans un livre.
je pense que pour beaucoup de gens, il est très infernal quand ils sont en prison, et de plus en plus infernal, puisque la situation aujourd'hui dans les prisons françaises est absolument lamentable et honteuse, d'ailleurs. Et c'est condamné, d'ailleurs, au niveau international, la situation française. En tout cas, j'ai vu la possibilité dans cette proposition qui m'était faite, finalement, de clarifier un peu une situation qui était devenue un peu étrange pour moi en 1988. J'ai fait de la prison entre 1978 et 1983.
Vous aviez entre 26 et 31 ans.
Voilà,
Hein.
je suis sorti à 31 ans et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et quand j'étais en prison, parce que j'ai eu affaire à un directeur d'établissement pénitentiaire très humain et très intelligent, Et aussi, il y a des amis qui m'ont aidé, notamment à faire passer des livres, qui m'ont aidé à pouvoir vivre cette période-là dignement, ce qui n'est pas facile. Et puis, quand je suis sorti, j'ai eu beaucoup de chance, parce que, par exemple, Claude Nogevander, qui dirigeait le cabinet TEN, m'a embauché. Je lui ai dit que j'avais fait de la prison, il m'a dit « je vous embauche ». Je me suis retrouvé consultant. J'ai fait toutes sortes de travaux passionnants, d'ailleurs, pour l'économie. Et ensuite, j'étais d'abord chargé de séminaire au Collège international de philosophie à Paris, donc j'ai pu continuer à faire de la philo. Et ensuite, on m'a proposé un contrat de recherche au ministère de la Recherche avec le ministère de la Culture, et donc je me suis retrouvé chercheur à plein temps. Ce qui m'a donné l'occasion d'ailleurs de faire une exposition au Centre Pompidou dans le cadre de cette recherche, une exposition qui s'appelait Mémoire du futur. Et cette exposition a eu un très gros succès. Et là, l'université de Compiègne, que j'avais associée à cette exposition, pour des raisons, parce que je voulais des ingénieurs en stage pour faire cette exposition avec moi, m'a proposé un poste, ce qui était totalement inespéré pour moi. Je n'avais jamais souhaité, imaginer même d'être prof dans une université, parce qu'en principe, en France, pour être prof à l'université, il faut être agrégé, et je ne pouvais pas passer l'agrégation, parce que j'avais un casier judiciaire. Et l'agrégation est un concours réservé aux fonctionnaires. Donc j'ai accepté le poste, et puis quand j'ai reçu un dossier à remplir, je me suis aperçu qu'il fallait que je fournisse un extrait de casier judiciaire. Et là, je me dis, ce n'est quand même pas possible que je rate cette occasion. Donc j'ai appelé un avocat, qui était mon avocat, Henri Leclerc, un grand avocat, un avocat fort connu, qui était président de la Ligue des droits de l'homme d'ailleurs, et qui m'a dit, je vais m'occuper de cette situation, il n'y a pas de raison, on va vous faire lever cet extrait de casier judiciaire, il y a une possibilité qui le permet, pourvu que le tribunal qui vous a jugé accepte. Et voilà, et en très peu de temps, en 6 semaines, cette affaire a été réglée. Et à ce moment-là, Henri Leclerc m'a dit, maintenant il ne faut plus parler de cette histoire de prison, parce que la République a décidé d'oublier. C'est un oubli national. Vous ne pouvez pas venir contrarier cet oubli maintenant, donc vous allez vous-même arrêter de parler de ça, parce que jusqu'à maintenant... quand je travaillais avec des gens qui m'embauchaient pour quelque chose, je leur disais que j'avais fait de la prison, ça me paraissait la moindre des choses. Quoi. Je voulais pas qu'ils l'apprennent par accident et ça me paraissait être normal. À partir de 88, j'ai donc moi-même oublié, et je l'ai réellement oublié. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je me suis pratiquement plus vraiment souvenu, même si au fond de moi-même, l'inconscient n'oublie pas, mais je n'ai plus jamais parlé de la prison, donc ça a fini par disparaître, et c'est devenu comme une jambe cassée, c'est-à-dire ça se ressoude, et puis on n'y pense plus, on n'imaginerait même plus qu'on s'était cassé la jambe. Et quand Marianne Alphand m'a posé cette question, ça m'a fait faire une espèce de retour en flashback, comme on dit aussi, cinéma. Et tout à coup, je me suis dit aussi, mais c'est peut-être l'occasion de réfléchir sur tout ça. Donc j'ai fait cette conférence et ça a donné lieu à un livre
où Passage j'ai raconté...
Passer à l'acte,
exactement. Passer à l'acte, pardon.
Passer à l'acte, où j'ai raconté, non pas ce que j'ai fait pour aller en prison, ni même exactement la vie quotidienne en prison, parce que peut-être que je ferai ça un jour, mais... j'ai voulu expliquer pourquoi la prison m'avait permis d'accéder à la pensée philosophique.
Alors, on peut le dire, ce que vous aviez fait, vous avez attaqué 4 banques successivement, dont votre propre agence bancaire, qui vous refusait un découvert à cette époque-là. Vous les avez attaqués avec un revolver, et vous avez dit d'ailleurs que ce revolver était chargé, mais il avait une balle et que c'était pour vous, c'était pas pour menacer les gens. Vous étiez très suicidaire, on a l'impression, ce que j'ai pu lire depuis, sur ce que vous avez pu dire à propos de cette
période. C'était la fin des années 70. Ces années 70 ont été assez dures, hein. On les a appelées les années de plomb. Alors c'était surtout en Italie qu'on appelait et en Allemagne qu'on a parlé comme ça, c'était les années du terrorisme. Moi j'ai connu les années 60, ma jeunesse au sens fort, où je n'étais pas encore adulte, c'est les années 60 et c'est donc 68 aussi. Et les années 70 ont été ce que j'appelle parfois les années de la gueule de bois. Bon. Beaucoup de gens ont connu d'énormes déceptions dans les années 70 par rapport à tout ce qui avait pu leur faire miroiter un grand espoir dans les années 60. Ça a été aussi l'année du choc pétrolier, enfin la décennie du choc pétrolier, ça a été la décennie de la fin des 30 glorieuses. Bon, c'est le début de la crise.